Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ces jours de fête à l'écoute de cette nouvelle émission spéciale proposée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Il y a 9 ans de cela, une de nos émissions diffusées le jour de Noël avait été consacrée à un médecin tchèque victime du mal d'Afrique. Le mal d'Afrique, cette attirance pour le continent noir évoquée par les colonisateurs à leur retour en France. Ce médecin s'appelait Marcel Drlik. De retour en République tchèque après un an passé dans un hôpital de Bozoum, dans le nord-ouest de la République centrafricaine, Marcel Drlik avait fondé en 2006 et avec quelques amis Siriri, une ONG qui œuvre essentiellement dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Depuis, tel un de ces centaines d'enfants centrafricains que ce chirurgien pédiatre a aidé à venir au monde, Siriri a bien grandi. Son directeur, Wojciech Billy, et une des volontaires de l'organisation, Adriana Vlasakova, ont évoqué cette évolution dans les studios de Radio Prague.
Vient de la langue nationale de la République centrafricaine, ce qui est Sango. Et en Sango, Siriri, ça veut dire la paix.
Pourquoi la République centrafricaine, un pays qui est très mal connu des Tchèques?
En effet, il y a une liaison personnelle entre la République tchèque et la République centrafricaine, car Siriri, c'est une ONG qui a été créée à la base d'un partenariat clé avec l'ordre des Carmes des Chaux, des missionnaires qui travaillent en République centrafricaine, dont la Provence couvre pas seulement la République centrafricaine, mais aussi une partie d'Italie et la République tchèque. Alors les Carmes des Chaux qui sont ici à Prague, à l'Enfant de Jésus, font partie de la même famille donc, que les missionnaires en République centrafricaine. Donc en effet, au début, il y avait 6 fondateurs, dont un médecin qui a passé quand même un peu de temps à Bozoum, en République centrafricaine, dans une mission des Carmes. Et après son retour en République tchèque, avec des autres personnes, ils ont fondé Siriri. Et Siriri, depuis, ils ont travaillé côte à côte avec des missionnaires. C'est assez intéressant parce que c'est un partenariat assez unique. Il n'y a pas beaucoup d'ONG qui travaillent de la même façon. C'est surtout à cause du fait qu'en Centrafrique, il n'y a pas de vrai gouvernement, dans le sens qu'on ne voit pas vraiment l'action du gouvernement dans le pays. C'est peut-être seulement la capitale, mais sinon dans la Provence, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas la structure, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles. Alors, quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui marche dans le pays, c'est souvent des missions de différents ordres, même catholiques, protestants, des différentes églises, etc. Et c'est assez intéressant parce que ces missionnaires qui vivent en République centrafricaine déjà depuis 20 ans, même plus, ils parlent bien donc la langue, d'accord, des locaux. Et c'est pas seulement Sango, quelquefois c'est même des langues régionaux. Et ce sont... Bon, bien sûr, évidemment, ils ont une tâche particulière, évangélisation. Mais ensuite, ce sont eux qui construisent des écoles, qui dirigent des hôpitaux, qui remplacent l'État. Donc, en effet, on s'est rendu compte que la meilleure façon, comment accéder, disons, aux gens de la République centrafricaine, ce serait, disons, de passer par les gens qui sont les plus proches à la population, qui sont vraiment des vraies autorités naturelles. C'est pour ça qu'on a commencé, disons, petit à petit, travailler avec des Carmes, qui ont une liaison particulière avec l'enfant Jésus de Prague.
Ah,
Quels sont les principaux projets que vous avez développés durant ces 10 ans, depuis la naissance de votre organisation?
Bon, comme j'ai déjà expliqué, nous avons commencé par le soutien, disons, des différentes activités des CARM. Alors, au début, on a cherché un peu d'argent, on a choisi certains projets sur lesquels les CARM nous ont demandé un soutien. Et donc, au début, on a commencé, par exemple, à soutenir un orphelinat. Un peu plus tard, deux de nos fondateurs, ils sont partis là-bas sur place pour aider à la construction d'un lycée et collège. Donc, cet établissement est soutenu financièrement depuis. Donc, ça fait déjà 6 ans, 7 ans. Et ensuite, il y avait différents projets qui se sont développés. On est très concentré sur l'éducation. Parce qu'on est vraiment une ONG qui travaille surtout dans le développement. Pas tellement dans l'humanitaire, on a quelques projets dans l'humanitaire aussi, mais c'est surtout développement et surtout dans l'éducation. Ensuite, il y a un peu des projets dans santé et agriculture. Donc, il y avait un projet des forêts, donc on a un élargissement des forêts où on a soutenu l'élevage des vaches, d'accord, dans un endroit particulier, etc., etc. Mais c'était souvent, disons, la manière un peu passive, c'est-à-dire les acteurs, donc c'était les CARM. Pour nous, c'était plutôt la tâche de chercher les moyens de financement ici au niveau de la République tchèque. Mais après 10 ans, ça a changé. L'année dernière déjà, on a commencé un projet qui était, disons, réalisé presque purement de notre côté, c'est-à-dire il y avait des bénévoles qui sont partis en République centrafricaine pour travailler, et c'était un projet éducatif à prendre en juin. Après les 10 ans, on s'est rendu compte comment on pourra encore mieux aider, ou plutôt donner un coup de main pour avancer un petit peu l'éducation. La réalité en Centrafricaine, c'est que depuis l'indépendance du pays, depuis 1960, l'État n'était pas capable de construire une seule école par ses propres moyens. C'est-à-dire, même le système éducatif, il est complètement dépendant à l'aide de l'extérieur. Et rien ne change depuis. Le système, c'est un peu comme avant l'indépendance, c'est-à-dire que c'était vraiment système français, qui est très particulier, mais il n'était pas renouvelé, il n'y avait pas les réformes. Et bon, vu que les enseignants ne sont pas payés, donc les écoles publiques ne fonctionnent pas tellement, il n'y a pas vraiment le niveau. Les enfants qui sortent après les 5-6 années de l'école primaire, ils ne savent pas toujours lire ni écrire. Alors c'est vraiment une situation très, très complexe, un peu triste. Alors on s'est dit, comment on pourra faire quelque chose avec.
Et c'est ainsi donc qu'a vu le jour donc ce projet, l'école en jouant. Alors concrètement, de quoi s'agit-il?
Alors on s'est rendu compte que les enseignants, souvent, ils savent très bien de quoi ils sont censés de parler, qu'est-ce qu'ils sont censés d'expliquer, mais c'est souvent la méthode d'enseignement qui est un peu Moyen-Âge, quoi. Alors on a essayé, disons, de préparer des formations pour les enseignants du primaire, qui devrait les amener, disons, un petit peu d'utiliser des méthodes beaucoup plus riches, beaucoup plus interactives, qui vont demander des enfants, disons, de participer beaucoup plus, de réfléchir beaucoup plus. Tout ça, c'était un petit peu inspiré par Jan Amos Comenius. Ce qui était génial, c'est que c'était pas seulement donc la méthode, c'est-à-dire c'était aussi, disons, de fournir quelques outils pédagogiques qui pourront servir aux enseignants, disons, de développer ces cours. Donc, à la base, il y avait des petites cartes à lettres, il y avait des cartes avec des petites lettres pour jouer avec. On a préparé l'alphabet vivant, etc., etc. Et tout ça avec le but de résoudre encore notre problème. Les enfants qui arrivent à l'école, ils parlent sango. Souvent, ils parlent en langue encore régionale, mais on me demande de commencer à apprendre à lire et écrire en français.
Voilà, et donc c'est là où votre projet est, entre guillemets, révolutionnaire, dans le sens où vous proposez un manuel et de faire un enseignement dans la langue de ses enfants et aussi des enseignants qui parlent mieux le sango que le français.
Exactement. On a un peu regardé comment ça se passe dans les autres pays qui sont un peu plus développés, en Afrique évidemment. Et là, il est normal que l'enseignement, au moins pour le primaire, se passe dans la langue nationale, régionale. Et après, on passe dans la langue officielle. Pour la Centrafrique, c'est français. Alors, on a proposé un passage par sango en arrivant en français un peu plus tard. Et ça a très bien marché. La première année, on a essayé juste pour une seule école qu'on connaît très bien, qu'on soutient depuis. Et avec les enseignants, on a passé par la formation déjà. Donc, c'est-à-dire les enseignants ont participé à la formation, donc comment jouer avec les enfants, comment vraiment élaborer leur cours comme il faut. Et ensuite, on les a fourni donc des manuels, donc des abécédaires en sango, créés par deux artistes tchèques qui avaient aussi un peu l'expérience parmi eux de la Centrafrique. Et on a un peu regardé comment ça marche, est-ce qu'il y a vraiment des résultats. Et on était très surpris parce que quand on est revenu, parce que la formation s'est déroulée au mois de septembre, on est revenu en Centrafrique au mois d'avril pour voir les résultats. Et on est passé vraiment classe par classe en regardant si les enfants lisent ou non. Et on était vraiment très contents parce que 90% des enfants étaient capables de lire et écrire, disons, niveau base, mais quand même, c'était un grand, grand progrès.
Adriana, vous avez participé à cette formation en septembre dernier. Vous avez passé 3 semaines en Centrafrique. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, puis d'abord vos motivations. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure?
Bonjour, oui c'est vrai, j'étais une de 8 formateurs qui sont partis en Centrafrique en septembre. Pour commencer, moi j'étais déjà une bénévole dans Siriri, donc je sais déjà des détails sur... sur ce projet, donc ça m'intéresse beaucoup. Et puis quand Vojta m'a proposé de pouvoir y aller, moi j'étais vraiment heureuse. D'abord, en République tchèque, on a passé des formations pour se bien préparer pour y aller. On a passé 4 jours quand on a travaillé avec Ludmila et Wojtek parce que moi et les autres... on n'était jamais en Centrafrique, donc on savait rien. Et en Centrafrique, on a travaillé dans 4 classes. Dans chaque classe, on avait 30 personnes. C'était pas juste les enseignants du Bozoum, mais il y a vraiment beaucoup d'autres écoles. Et on a travaillé sur 5 principes. Par exemple, l'aspect pratique, bien travailler dans les groupes, bien travailler sur l'évaluation, mais aussi on a travaillé avec les syllabaires, aussi avec les cartes, avec les lettres, et aussi avec l'alphabet vivant.
Avez-vous été étonné quand vous avez découvert une école en Centrafrique?
Oui, bien sûr. Pour au début, c'était vraiment dur parce que moi, j'ai jamais été en Afrique. Et puis, quand j'étais dans une classe, quand il y avait 30 personnes, c'était vraiment énorme. Mais après, c'était vraiment bien parce que les enseignantes ont vraiment envie de travailler avec nous. Et on a joué avec les enseignantes, on a joué comme les enfants. Et puis je pense qu'on a vraiment aidé à leur donner l'envie pour travailler avec les enfants chez eux.
Avez-vous eu l'occasion également d'être en contact à l'école avec ces enfants? Et si oui, avez-vous noté des différences dans le comportement par rapport à l'expérience que vous pouvez en avoir ici en République tchèque?
En Centrafrique, on n'était pas à l'école exactement où sont les enfants parce qu'on était là-bas avant de commencer l'année scolaire. Mais on était là-bas parfois avec les enfants, mais j'ai vu comment les enfants sont là-bas. Donc, c'est vraiment différent. Et les choses que les enfants font ici normalement, par exemple les petits jeux, les petits débats entre amis, là-bas c'est vraiment différent.
Vautier, dans quelle mesure ce projet est-il appelé à se développer? Vous le dites, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, à savoir enseigner en Sango en Centrafrique, mais ce projet est encore très local. Vous avez évoqué son succès. Forcément, on a envie de voir plus loin et puis de développer peut-être à l'ensemble du pays, même si c'est un pays très grand.
Ça, c'est une grande question qu'on se pose aussi. Le succès pour nous, c'est surtout le fait que après, disons, la phase pilote, donc après la formation pour une seule école, il y avait une demande énorme partout dans le pays. Donc, c'est-à-dire, l'information s'est vraiment diffusée et vraiment ensuite, on a reçu plusieurs appels, disons, de revenir en Centrafrique et refaire la formation dans les différentes écoles dans le pays.
Est-ce que les familles, est-ce que les parents sont demandeurs? Parce que c'est bien beau d'arriver, de leur dire, bon, vos enfants, on va leur apprendre à écrire, à lire et à écrire en Sango. Mais le français, quand même, la langue du pays, c'est une langue mondiale. Donc, par rapport à ça, au début, comment ont réagi leurs parents?
C'était pas évident. On a commencé petit parce qu'on craignait aussi un petit peu de la réaction des parents. En Centrafrique, les parents envoient les enfants à l'école pour apprendre le français. C'est le but essentiel, disons, parce que les gens éduqués, ils parlent français. Et comme vous l'avez expliqué, ensuite, ça ouvre la porte pour aller au lycée, même peut-être l'université. Mais c'est vraiment une grande minorité des étudiants qui arrivent jusqu'au bout. Et en effet, donc, on a commencé petit, et il y avait presque une grève des parents qui sont venus à l'école pour demander, mais comment ça que les enfants n'apprennent pas en français, et pourquoi Sango? Il faut vraiment dire que Sango est toujours vu un peu comme une langue médiocre, disons, par rapport au français. C'est toujours...
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas un équilibre entre les deux langues. Alors, on a surtout les missionnaires qui nous ont assisté avec le projet dès le début, et ils ont dû beaucoup expliquer aux parents. Et enfin, quand les parents ont patienté un petit peu, ils ont vu des résultats. C'est-à-dire, ils sont revenus à l'école quelques mois après, félicitant, disons, des missionnaires pour le travail que nous avons fait ensemble. Parce que les enfants au quartier, ils commençaient, disons, déjà à écrire des petites choses, ils commençaient à montrer aux parents qu'ils ont appris des choses, et c'était vraiment énorme.
Voilà, parce que concrètement, comment peut-on se faire une idée de la différence, des résultats, de l'évolution de l'enfant entre l'enseignement en français, l'enseignement classique, et l'enseignement désormais en Sango?
À la fin de, disons, du primaire, à peu près un tiers des enfants arrivent à lire et écrire, plus ou moins. D'accord? Un niveau très faible, mais au moins arrive un petit peu. Mais c'est seulement un tiers de la totalité des enfants qui arrivent jusqu'à la fin du primaire, ce qui n'est pas tout à fait 100% de l'effectif qui est arrivé pour les classes initiales. Alors, si c'est juste un tiers, et là, on regarde un petit peu l'histoire donc de notre programme, et on a, après 8 mois de cours, d'accord, avec la nouvelle méthode, avec nos nouveaux outils d'enseignement, on arrive à peu près à 90% des enfants qui sont capables de lire un texte inconnu et écrire des phrases, voilà, peut-être en majuscule seulement pour l'instant, mais petit à petit, vraiment, ils progressent beaucoup plus rapidement. Et la différence se voit surtout quand ils ont, disons, des frères, des sœurs qui sont un peu plus âgés, qui sont déjà passés par l'école. Et c'est là où les parents se sont rendus compte que vraiment ça marche, parce que vraiment, les petits, ils ont rattrapé Ils ont ses frères qui avaient 3-4 ans de plus.
De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour que ce projet se développe et aille au-delà de la région de Bozoum? Comment justement développer, faire en sorte que ce programme puisse être proposé au plus grand nombre?
Nous sommes une ONG très petite, enfin vraiment minuscule comparant, disons, les grandes ONG qui travaillent à côté de nous. Mais on a réussi quand même à prouver au monde qu'avec très peu d'argent, on arrive à faire beaucoup de musique. Mais vous avez parfaitement raison pour l'élargissement de ce programme, disons, même au niveau de toute la République centrafricaine, ce qui serait idéal. Il faut l'argent, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc là, on est en train d'un peu de réfléchir comment on va faire. Bon, une côté, c'est disons des dons individuels. Ça, c'est une méthode un peu lente parce que ça prend du temps. Différentes possibilités, ça serait passer par des différents fonds, par des différentes subventions de l'Union européenne, de l'État, des différents budgets pour la Centrafrique, etc. Mais là, c'est aussi question d'administration, question aussi d'une équipe forte qui doit être, disons, établie, etc. Donc là, on est en train un petit peu de voir, mais de toutes les façons, déjà cette année, on a fait un grand progrès, disons, dans les deux sens, qu'on arrive, disons, un petit peu saisir les choses comme il faut et attirer plus de donneurs. Et donc, la suite, bien sûr, dépend tous des dons des gens, mais en même temps aussi de la volonté de la part des Centrafricaines. Donc, de toutes les façons, il est prévu qu'on va continuer, qu'on va élargir. Mais je pense qu'au début, il ne faut pas trop insister sur aller trop vite, trop loin. Il faut quand même faire attention pour ne pas faire quelque chose qui sera complètement gâché juste parce qu'on n'a pas trop fait attention, disons, aux gens là-bas ou des différentes autorités ou parce qu'après, on n'a pas suffisamment d'argent pour terminer le projet.
Autre question, Adriana, qu'est-ce que cette expérience, même si elle a été relativement courte, 3 semaines, mais 3 semaines, ça permet quand même de se faire une première idée de la situation dans un pays. Qu'est-ce que cette expérience vous a donné?
Cette expérience m'a enrichi vraiment beaucoup parce que j'ai vu les choses lesquelles j'ai jamais vues. J'ai travaillé avec les personnes, j'ai pu parler avec les enseignantes en Centrafrique. C'était vraiment la bonne expérience pour moi et pour toute ma vie.
Vautier, vous avez encore vous une expérience différente. Vous êtes parti en Centrafrique très jeune, peu après l'obtention de votre bac à Dijon d'ailleurs, d'où votre excellent français. Vous êtes parti 10 mois à une période qui était très très délicate. Elle l'est toujours, mais à l'époque quand vous êtes arrivé à Bozoum, elle était particulièrement. Vous aussi, qu'en avez-vous retiré de cette expérience?
Pour moi, c'était. Moi, je suis parti en Centrafrique. 10 mois, je vais faire un peu le bénévolat, je vais travailler un petit peu à l'école, donner des cours. Et comme vous l'avez dit, ça changeait un petit peu parce que bon, il y avait la guerre civile. Et donc, il y avait des mois où je me suis retrouvé dans des situations. Bon, les cours étaient bien sûr ne continuaient plus. On avait 6000 réfugiés à notre mission, donc l'école était disons remplie par les gens qui s'est cachés à la mission parce que autour de la mission, de la concession de tous les bâtiments donc qui font partie de la mission, chaque jour il y avait des combats, il y avait des gens qui se battaient. Bon, c'était l'expérience très intense. Je suis arrivé comme un blanc. Les Centrafricains disent un Munju, qui vient déjà bonjour. Disons les Français, les colonisateurs qui sont arrivés, ils disaient bonjour. Donc il y a les Munju, les blancs. J'étais à Munju et après donc la guerre, donc, quand j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai justement un petit peu assisté aux gens qui arrivaient, essayé d'aider un petit peu avec la distribution de la nourriture. Mais vu que c'était tellement fort, que c'était tellement intense, j'ai réussi à avoir des relations vraiment très 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 fortes avec les gens locaux. Alors ça changeait tellement parce qu'après les 2 mois de la guerre civile, j'étais plus à Munju. J'étais Wojtek. Ils m'ont commencé à appeler par mon prénom. Et donc j'ai créé des amitiés qui s'oublient jamais. Enfin, c'est très particulier.
De cette expérience, vous avez écrit un livre. Votre livre a un titre un peu particulier. Je pense qu'on ne peut lire seulement en tchèque, malheureusement pour nos éditeurs. Expliquez-nous un peu ce titre.
Le titre de livre que j'ai écrit avec ma collègue Alena Shainostova s'appelle « Když padají manga », « Quand tombent les mangas », donc un manga tombe, si on le traduit en français, rapidement. En effet, ça revient au moment quand la guerre civile plus ou moins terminée et les enfants sont revenus à l'école. Et quand vous regardez les écoles en Centrafrique, ils ont une torture, disons...
En tôle,
voilà, c'est une tôle, quoi. Et donc, mois mars, par exemple, mois d'avril, c'est la période qu'on a des mangues en Centrafrique. Et les mangues, les manguiers, souvent, c'est dans des arbres très
haut.
Très haut. Et donc, quand les mangues tombent, quand ils sont bien mûrs, et ça tombe sur le tôle, ça fait un bruit énorme. Et c'est comme vraiment des kalachnikovs. Vraiment, ça rappelle beaucoup des tirs, disons, qu'on a entendus chaque jour pendant la guerre. Et donc la réaction des enfants quand une mangue tombait sur le tôle, c'était qu'ils se cachaient sous les bancs. Tout de suite, c'est une réaction naturelle et un peu effrayante pour moi en tant qu'enseignant qui regarde les petits qui ont déjà dans leur vie assez courte avec ce genre d'expérience. Alors c'est pour ça que le titre du livre, c'est « Když padají manga ».
Wojciech Bily et Adriana Vlasakova, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Wojciech Bily, vous êtes donc le directeur, on le rappelle, de Siriri et Adriana, une volontaire donc, de cette ONG. Avant de nous quitter, Wojciech, dites-nous encore comment on souhaite un joyeux Noël ensemble.
Djonu Matanga Ti Noël. On peut dire comme ça souvent. Il y a les mots en français qui sont déjà insérés dans le sango, mais en sango, on dit « Johnny Matangati Noël ».
Nous arrivons ainsi au terme de cette émission spéciale proposée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention. Le moment est maintenant venu de vous souhaiter un joyeux Noël en tchèque et non plus en sango. Šťastné a veselé Vánoce. Vítejte se krásně, portez-vous du mieux possible. À bientôt, de nouveau à l'écoute de Radio Prague. Ahoj.